Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, 18 civils tués, c'est le bilan de l'attaque des rebelles ougandais de l'ADF la nuit dernière à Vutotolia dans le secteur de Rwenzori-Ituri. Des sources locales affirment qu'il y a même des personnes disparues. À Goma, plusieurs maisons sont fissurées dans plusieurs zones de cette partie du pays et beaucoup de blessés suite au mouvement sismique enregistré dans la ville depuis lundi dernier. Le service de la protection civile appelle la population à la vigilance tous azimuts et à quitter les maisons qui sont fissurées. Notre invité, c'est le député national Emmanuel Mukundi. Cet économiste parle du sommet de Paris en France qui s'est achevé le 18 mai dernier sur des solutions pour aider les économies africaines en crise dans le contexte du coronavirus. Madame, messieurs, bonsoir. Honore Kivu, le bilan est passé de 13 à 18 civils tués par les rebelles ougandais de l'ADF la nuit dernière à Vutotolia dans le secteur de Rwenzori. Des sources locales affirment qu'il y a eu également des personnes portées disparues. À Beni, Marc Marofimo.
Les sources locales indiquent que c'est tard dans la nuit de mardi à ce mercredi que les rebelles de l'ADF ont fait incursion dans la localité de Vutotolia au village Kisima. C'est à 27 km sur la route Beni-Kassindi vers la partie nord-est de la ville de Beni. Ici, ces rebelles ont ôté la vie à 13 civils, parmi lesquels un chef de base de la localité Vutotolia, ainsi que sa femme sur qui l'armée, qui était aux trousses de l'ennemi, a retrouvé un bébé vivant. La société civile de Kisima indique qu'il y aurait également des civils pris en otage par ces EDF lors de cette nouvelle attaque. La population de Vutotolia s'est réveillée ce mercredi dans une grande frustration et désolation à la suite de la disparition des leurs. Nos efforts pour avoir les porte-parole des opérations Sokola 1 de la région n'ont pas abouti. Signalons que cette incursion intervient deux jours seulement après une autre attaque des EDF contre deux positions de miliciens du groupe IEPC à Pabuka, toujours dans cette même région du secteur de Rwenzori. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
À Bounia, pendant ces temps, le site qui abrite 12 000 déplacés de Kizongué est confronté au manque d'eau potable et de médicaments essentiels depuis 3 semaines. Conséquence, 7 personnes sont déjà mortes. Selon le président de ces sites, Faustin, l'ONU appelle à l'aide d'urgence. Le point de la situation avec vous, Charlie Omba.
La situation humanitaire est catastrophique au site de Kigonze, au quartier Muzipela, dans la ville de Bounia. En cause, la carence d'eau depuis 3 semaines. La régie de Ngongo ne fournit plus de l'eau dans ces cas, car le projet pour la desserte en eau est arrivé à son terme. Des milliers de déplacés sur place se bousculent pour puiser de l'eau dans des puits dont l'un en déjà tari, ce qui les oblige à aller chercher de l'eau souillée dans des rivières proches. Le programme de prise en charge médicale de ces déplacés est également à son terme. Le président de ce site déplore déjà des conséquences de cette situation sur la vie de ces personnes vulnérables. Faustin Lonou affirme avoir déjà enregistré 7 cas de mort. Il lance une alerte aux autorités compétentes et aux humanitaires pour sauver des vies en détresse.
Ici, nous avons besoin de l'eau. Nous n'avons pas d'eau. Le deuxième problème, nous n'avons pas de médicaments. Les gens se retrouvent nombreux dans ces sites. Il y a beaucoup de cas de maladies. Ici, nous avons un corps sans vie. Depuis avant-hier, nous comptabilisons déjà 7 corps. Qu'on nous aide avec les médicaments, parce que les déplacés souffrent beaucoup.
Rappelons que c'est depuis le 28 avril dernier que les projets d'approvisionnement en eau et médicaments étaient arrivés à sa fin. Bounia, Charlie Omba, Radio Okapi.
On passe à Goma où plusieurs maisons et murs de clôtures effondrés, des fissures dans plusieurs zones et beaucoup de blessés. C'est le bilan provisoire du séisme intense enregistré dans la ville depuis lundi dernier au lendemain de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le service de la protection civile appelle la population à la vigilance tous azimuts et à quitter les maisons qui sont fissurées. À Goma, Sifamagourou.
D'après Joseph Makundi, coordonnateur provincial de la protection civile, les dégâts matériels sont importants. Sans donner les chiffres, ses responsables ajoutent que cette situation est accentuée à cause d'anciennes fissures qui se sont réouvertes avec les tremblements actuels. Il demande à tous les habitants qui remarqueraient des fissures dans leurs maisons, surtout les maisons en étage, de quitter immédiatement et d'appeler les numéros verts de la protection civile, les 082 08 00 001 pour faire face aux dégâts. Ces effondrements des maisons et autres murs des clôtures sont enregistrés dans plusieurs quartiers, notamment Katindo. Certaines victimes sont prises en charge à l'hôpital provincial de Goma où deux grandes fissures béantes se sont également ouvertes. Des fissures qui seraient en communication avec celles qui se dessineraient déjà au mont Goma, le point le plus haut de la ville, affirment certains observateurs. Goma, Sifamagourou, Radio Okapi.
Et puis au moins 239 tremblements de terre ont été enregistrés hier mardi dans le périmètre du volcan Nyiragongo. La magnitude la plus élevée est de 5,2 sur l'échelle de Richter, selon le gouverneur militaire. Le lieutenant général Constant Dima annonce une série de comportements que la population doit adopter en ce moment crucial. Bernard Denyangui.
L'énergie libérée par ces séismes a rouvert plusieurs fractures, jadis recouvertes par d'anciennes coulées de lave ou remblayées par la population, indique cette communication officielle. Ce qui affecte particulièrement les quartiers Mabanga nord et sud, les volcans et Bujovu. Dans quelques-unes des fractures, la température va jusqu'à 700 degrés Celsius. En plus, la ville faisant face à la pollution de l'air par les cendres volcaniques et une forte concentration de gaz carbonique qui s'échappe à plusieurs endroits, le porte-parole de la cellule de crise annonce une série de conduites à tenir en ce moment. Major Njiki Kaiko.
Le gouverneur militaire des provinces recommande de ne pas marcher sur la nouvelle coulée de lave car elle est encore chaude à l'intérieur. De laver suffisamment les légumes et couvrir proprement les aliments et la vaisselle. De ne pas utiliser les eaux de pluie pendant cette période de crise. De ne pas paniquer pendant la survenue des tremblements de terre, d'occuper les rez-de-chaussée des maisons, d'étages, en cas de fortes secousses.
Le gouverneur appelle en plus la population de continuer à respecter le plan de contingence et le plan communautaire d'évacuation en vigueur en cas d'urgence. Goma, Bernard Denyangui, Radio Okapi.
Le transport lacustre est devenu intense sur les lacs Kivu entre Goma et Bukavu. Des milliers d'habitants de la ville de Goma affluent vers la ville voisine de Bukavu, au sud Kivu, par le lac. Des armateurs se disent débordés. Une correspondance d'Emmanuel Elmejoua Kabedi.
C'est depuis dimanche dernier que le lac Kivu est le plus sollicité par les habitants de Goma en direction de Bukavu. Hommes, femmes et enfants craignent les effets du volcan Nyiragongo et préfèrent trouver refuge dans la ville voisine de Bukavu. Jusque ce matin, une dizaine de bateaux accostent aux différents ports de Bukavu et repartent vite sur Goma pour la même opération. Pendant ces temps, la situation sociale et économique risque de se détériorer. Monsieur Prudent Mpama, président des armateurs du lac Kivu.
Nous avons alerté au maximum les membres d'équipage de bien charger. Parce que ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup de passagers de Goma à Bukavu, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes vraiment qui quittent Goma pour Bukavu. Recevons 8 à 9 bateaux par jour. Le grand défi que nous avons, il faut que les autorités comprennent que ces derniers temps, il faut que les bateaux accostent à tout moment. Alors que nous sommes dans un moment de catastrophe, il faut que les bateaux accostent à tout moment quand ils viennent du nord Kivu.
En dehors des habitants de Goma qui affluent vers Bukavu, il y a aussi des officiels et même certains étrangers qui tentent de rejoindre Kinshasa ou Lubumbashi par Bukavu. D'autres passent par la route RN2 en passant par le territoire de Kalehe, une route nationale impraticable en plusieurs endroits. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu, Radio Okapi.
Le président de la société civile de Lukolela dans la ville de Kikwit s'est dit très touché par l'éruption volcanique de Nyiragongo au nord Kivu. Alain Laoui suggère aux autorités de la RDC de mettre à la disposition des Congolais des numéros des comptes M-Pesa, Orange Money, Tigo Cash pour assister les sinistrés. À Bandunduville, Irène Moma.
Dans un entretien téléphonique avec Radio Okapi ce mercredi, la société civile section de la commune de Lukolela dans la ville de Kikwit s'est dit trop affectée par cette catastrophe qui ne cesse d'occasionner plusieurs énormes dégâts à Goma et ses environs dans la province du Nord Kivu. Dans le souci de compatir avec la population victime de cette éruption volcanique de Nyiragongo, Alain Laoui, son président, suggère aux autorités du pays de disponibiliser des numéros avec comptes à monnaie électronique qui vont permettre aux Congolais Congolais de contribuer afin d'assister ces victimes. Alain Laoui.
Nous proposons au comité qui gère cette catastrophe de mettre, si possible, à la disposition de la population congolaise des numéros MPSA, Orange Mali, Airtel Mali et j'en passe, pour une contribution de la population qui est aussi affectée, parce qu'il y a des gens peut-être qui veulent contribuer, mais vu la distance, ils ne voient pas ces opérateurs économiques de voler au secours de nos frères qui sont victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo.
Alain Laoui appelle la population de Goma à la vigilance et félicite le gouvernement congolais pour la célérité avec laquelle il a volé au secours des victimes de cette éruption volcanique. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ici à Kinshasa, la cellule mise ad hoc à la Cour de cassation par le chef de l'État congolais a déguerpi hier mardi après-midi la famille des majors des FARDC qui occupaient illégalement le bâtiment de l'INBTP depuis l'entrée de l'AFDEL en 1997. C'est en exécution des arrêts rendus par cette juridiction. Satisfait de l'issue de ce dossier judiciaire, le directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics confirme que sur ces sites récupérés, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va ériger des bâtiments modernes comme il l'a fait tout récemment à l'Unikine. Le professeur Simon Nanitouma s'est confié à votre serviteur.
Le 5 mai de cette année, nous avons été agréablement surpris par la visite du chef de l'État. Après cette visite, il a décidé qu'on puisse améliorer la capacité d'accueil de l'INBTP, améliorer les conditions de travail en érigeant 6 bâtiments. Il y aura 6 bâtiments qu'on va construire et on a même déjà commencé les études. Et parmi ces bâtiments, un sera construit sur ce site-là. Nous demandons à la grande communauté de l'INBTP d'être reconnaissante et aussi et surtout de bien gérer et protéger le patrimoine de l'INBTP.
Plusieurs lignes de la Société nationale d'électricité SNEL dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba ont été vandalisées le week-end dernier et au début de la semaine. Conséquence, plusieurs quartiers et entreprises minières n'ont pas d'électricité. Le directeur provincial de la SNEL appelle les autorités à sécuriser ce patrimoine national. Radio Okapi, Lubumbashi, Jean Gandou.
Les lignes touchées sont notamment celles de 50 kV qui alimentent les cités universitaires et leurs environs, dont la prison de la Kasapa et les quartiers qui l'entourent. Les inconnus ont fait écrouler un pylône et fait pencher un autre camp vivre. Cette situation plonge les cités universitaires, le quartier Gambela 1 et 2 et régie des eaux pompage, la prison de la Kasapa et ses environs dans le noir, et l'eau de la régie des eaux n'écoule pas au robinet. Du coup, à longueur des journées, plusieurs personnes, bidons jaunes à la main, sont à la recherche de cette denrée vitale. La deuxième, c'est la ligne L 81 qui est une ligne d'interconnexion entre la RDC et l'Afrique australe. Elle permet de stabiliser localement le courant électrique lorsqu'il y a déficit en important l'énergie électrique de la Zambie voisine. Les voleurs ont fait tomber les pylônes au village Minga sur la route de Kasumbalesa. Une fois de plus, ils ont emporté les câbles. La troisième ligne à être vandalisée est celle du répartiteur ouest dans le Lualaba. L'entreprise Kisenge Manganese et ses environs sont privés d'énergie électrique. La quatrième est celle de Chilantembo sur la route Likasi. Certaines entreprises minières qui sont généralement alimentées par cette ligne sont des pourvu d'électricité. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane ont annoncé leur démission cet après-midi. La délégation de la Troïka, composée des représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, était à Kati, où se trouvaient les deux dirigeants maliens depuis leur arrestation lundi dernier. Après des mois de tergiversation, la Suisse a mis fin aux négociations sur ses relations avec l'Union européenne. Annonce faite ce mercredi après-midi par le gouvernement. Cette décision risque ainsi de susciter le courroux de Bruxelles. Le président suisse Guy Parmelin a annoncé que la Confédération helvétique mettait un terme à ses négociations sur l'accord visant à homogénéiser le cadre juridique concernant la participation de la Suisse au marché unique de l'Union européenne et également instaurer un mécanisme de règlement de tous les différends.
L'invité.
Notre invité, c'est le député national Emmanuel Mukundi. Cet économiste parle du sommet de Paris qui s'est achevé le 18 mai dernier sur des solutions pour aider les économies africaines en crise dans le contexte du coronavirus. Il s'entretient avec Alain Rungmouchige.
Professeur Emmanuel Mukundi, bonjour. L'un des grands acquis du sommet de Paris qui s'est clôturé le mardi 18 mai dernier, c'est l'émission des droits de tirage spéciaux DTS. 650 milliards de dollars, ça représente 33 milliards pour l'Afrique, 24 pour l'Afrique subsaharienne. En termes simples, qu'est-ce que cela veut dire?
En fait, d'abord, le droit de tirage spéciaux, c'est une monnaie scripturale, c'est-à-dire on ne peut pas le toucher, ce sont des écritures en banque, qui a été proposé par les membres du FMI en 1969 pour permettre aux pays de pouvoir renforcer leurs réserves officielles. Alors, cette monnaie, le FMI l'émet, mais elle est soutenue par les 5 grandes monnaies, notamment le dollar américain, l'euro, la livre sterling, les yens et le yuan chinois. Les nations utilisent ça pour deux choses. Pour la première, c'est pour constituer leurs réserves afin de stabiliser leur monnaie. C'est-à-dire chaque banque centrale de chaque pays doit avoir des réserves en devises, notamment DTS au niveau international, pour pouvoir, n'est-ce pas, défendre sa monnaie nationale. Deuxièmement, doit absolument les convertir dans l'une des monnaies internationales, parmi les 5 que j'ai citées, pour vous permettre d'acheter le bien d'investissement. Voilà comment les nations en utilisent. À la création de cette monnaie, on l'a créée en fonction d'un panier où chaque pays avait un quota. Et cela dépendait de la richesse. Les pays riches, par exemple, dans ces quotas FMI, avaient à peu près 400 milliards de dollars américains, alors que les Africains n'avaient que 30 milliards. Et donc, si vous voulez bénéficier de l'appui du FMI en recourant au DTS, on vous le donne au prorata de votre quota. Voilà la raison pour laquelle, tout rapidement, là, je vous dis, les pays africains en bénéficient moins.
Les Africains espéraient beaucoup plus avant le début de la conférence. Le président Félix Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine, déclarait devant la presse que le continent misait sur 100 milliards de dollars. Doit-on considérer que ce sommet a accouché d'une souris pour les Africains, et la RDC particulièrement, et que c'était un échec?
Bon, au fait, on ne peut pas dire un échec, mais c'est lamentable, c'est ce qui nous arrive toujours. Quand vous prenez les prévisions mondiales, c'est 650 milliards, alors que nous avons 34 milliards. Si vous prenez en termes de pourcentage, c'est 5,23%. Ce n'est pas du nouveau, parce que les cotes-parts africains dans le capital du Fonds monétaire international, c'est d'à peu près 7%, 6, quelque chose, le pourcentage. Et si vous prenez ce que nous avons eu comme 34 milliards, si vous prenez les 34 milliards, vous conversez ça en dollars, c'est à peu près 48 à 58 milliards. Alors, si vous divisez ces 48 milliards ou 50 milliards au maximum, vous divisez par les 52 pays, vous constaterez que nous avons moins de 1 milliard par pays. Et voilà la raison pour laquelle les pays comme la République démocratique du Congo ne bénéficient pas au-delà de 500 millions. C'est toujours 500 millions, si c'est plus, c'est 700 millions. Et même cette fois-ci, s'il faut s'attendre à quelque chose, c'est autour de 250 à 750 millions, tout calcul fait. Alors ça, je peux dire que, bon, ce n'est pas du nouveau, c'est de l'utopie que vivent les Africains chaque fois. Les Africains ne doivent pas compter sur ça.
Dans le contexte de la COVID-19, quelle serait la solution pour les pays africains déjà en crise économique et particulièrement pour la RDC selon vous?
En premier lieu, c'est l'organisation de la société. Parce que l'économie fonctionne dans une société qui est bien organisée et les capitaux suivent. Et même la production, on ne peut pas produire là où il y a la guerre, par exemple. On ne peut pas produire là où il y a l'insécurité. Même si vous organisez l'agriculture, vous allez organiser où? Là où il y a l'insécurité. Il faut commencer d'abord par les cadres institutionnels, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut changer le paramètre. Or, pour changer le paramètre, c'est de vouloir quitter le secteur minier pour aller dans d'autres secteurs. Ou réduire le secteur minier pour aller dans d'autres secteurs. Aller dans d'autres secteurs, comment vous allez y arriver? Les secteurs miniers, ils y arrivent parce qu'il y a des étrangers qui lèvent le fonds sur les marchés internationaux, mais un agriculteur congolais ne peut pas le faire. Il ne reste que l'organisation du système financier national qui peut permettre à ce que les agriculteurs puissent obtenir le moyen de financer ne fût-ce que la sortie, les dégagements des produits réalisés déjà dans nos milieux ruraux, des zones de production vers les zones de consommation. Nous devons réorganiser le système institutionnel parce que l'économie ne fonctionne pas en dehors du social. Nous fonctionnons de manière générale dans le social. Et par conséquent, il faut d'abord organiser notre manière de gérer les choses. Il faut réorganiser notre système financier. Parce que le système financier que nous avons aujourd'hui dans notre pays, nous avons une dizaine de banques qui ne fonctionnent que dans des centres commerciaux. Vous ne les verrez pas dans le milieu de production.
Professeur Emmanuel Mukundi, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le député national, le professeur Emmanuel Mukundi, un économiste qui parlait du sommet de Paris qui s'est achevé le 18 mai dernier sur des solutions pour aider les économies africaines en crise dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Il était interviewé par Alain Rungmouchige. Il est 18h20 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir écouté. Vous avez le loisir de retrouver ce journal sur les différentes plateformes de Radio Okapi.